Michel Laurent, le dernier photographe mort au Vietnam.
Il était maigrichon, dur comme un... Il était vraiment très costaud, étrangement. Il pouvait soulever tout seul une armoire, mais il était très maigre comme ça. Et ça, c'est de constitution. Quelquefois, il se levait la nuit, il ne dormait pas. Et la tendresse revenait parce qu'il avait cette tendresse immense. Et du coup, il était encore plus gentil avec tout le monde, tout le temps. Mais c'est fou comme il a toutes ces choses qu'il a vues, elle a toujours retourné comme une, pour la vie quotidienne, pour les choses. Quand il était là, il était présent comme personne. Quand moi, je vois des gens qui ne partent pas et qui ne reviennent pas, et ils ne sont jamais présents. Enfin, ils sont limites, quoi. Lui, quand il était présent, il était présent.
C'était un garçon très élégant, je me souviens, toujours bien habillé, fumant des cigares, roulant dans des jolies voitures. Je me souviens, il avait une Jaguar, une vieille Jaguar, et qu'il a abandonnée quand il a rencontré sa femme, en me disant « il faut que je choisisse entre ma voiture et ma femme, je n'ai pas les moyens d'entretenir les deux ». Ouais. Et un peu dandy, et c'est vrai qu'il dénotait complètement dans la profession, en tous les cas parmi les photographes d'agence quotidienne.
Les années 70 sont lourdes d'événements. Les rêves des printemps 68 se sont envolés. La guerre du Vietnam continue à tuer, les chars russes déferlent la Prague, en Jordanie il y a 4000 morts, 10 000 blessés, Nasser meurt. Pompidou aussi. Le Bangladesh paye son indépendance au prix du sang. Les Anglais se battent contre les Irlandais, les armées arabes attaquent Israël, les Turcs veulent chasser les Grecs de Chypre, c'est la crise, déjà. La crise du pétrole, comme toujours. Les reporters volent d'avion en avion. Les morts en reportage s'accumulent, surtout au Vietnam et au Cambodge. En avril 70, Gilles Caron disparaît entre Phnom Penh et Saïgon. 5 ans plus tard, toujours au printemps, Michel Laurent, son successeur à l'agence Gamma, est tué. Et Saïgon va tomber aux mains des communistes. Je vous parle d'une autre époque. Pas de numérique, les films sont argentiques. Le téléphone est très cher, pas d'internet non plus, mais des bélinographes pour transmettre les images et des télex pour les mots. L'information circule à dos d'escargot. Gilles Caron, Michel Laurent sont deux photographes très différents. En commun, pourtant, une certaine élégance de comportement qui tranche avec la rusticité de leurs aînés et avec celle de nombre de leurs jeunes confrères. Michel Laurent est né en 1946. Il débute à 16 ans au laboratoire de l'agence américaine Associated Press, une agence qu'on dit à l'époque télégraphique. Le boulot ? Faire vite une image, vite la développer et la belliner à New York. De là, elle va approvisionner la presse du monde entier. Avec son Burberry, ses lunettes de soleil, son cigare, le quotidien Le Monde dans la poche, le souriant Michel Laurent, un bel homme, a repéré sa future femme, une freelance de l'AFP, dont tous parlent. Elles sont rares, les femmes photographes. Elle est très jolie. Michel, vous étiez seule quand Michel Laurent est arrivé dans la cour de Matignon ?
Ouais, toute seule. Alors je me suis dit, comme d'habitude, je suis en retard. Et en fait, au bout de 10 minutes, j'ai vu arriver une petite silhouette un peu frêle, comme ça, avec un petit Leica et un cigare. Je ne savais pas qui c'était. Et il est venu directement vers moi et il m'a appelé Michel Boudère. Je lui ai dit, ah bon, vous connaissez mon nom? Ben, vous savez, il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce métier. Je suis rentrée il y a 3 jours. On m'a tout de suite parlé de vous. Pourquoi on est seul? Ah ben, parce que ce sont des Indonésiens qui viennent voir, que ça intéresse que la Société de Presse et que l'AFP. Ah bon? Puis je le regardais comme une... Ça faisait quoi, 3-4 mois, et je ne rencontrais que des gens, des photographes qui vous faisait des sourires, et quand arrivait un travail, il vous bousculait, il vous passait dessus pour n'importe quelle image. J'étais écrasée comme ça. D'ailleurs, j'avais pris un style, je faisais des photos au sol. Alors, c'était des contre-plongées, c'était le seul endroit où j'avais un petit espace pour faire des photos. Puis alors après, quand le travail s'arrêtait, ils venaient vers moi, voulez-vous un café et tout. C'était des monstres. Et moi qui voulais faire ce métier par idéal, comme ça, parce que je trouvais que c'était fabuleux d'être reporter, j'étais désappointée, j'étais complètement déçue par les gens qui faisaient cette profession, par ces photographes-là, quoi. Ouais. Alors on est sorti de Matignon, il m'a tendu sa carte, j'ai vu que c'était la Société des Poètes, j'ai vu son nom, et il m'a dit, si vous avez besoin de photos sur ce coup-là, vous m'appelez. J'étais très vexée, ça veut dire que je n'avais pas bien travaillé, quoi. Puis je suis rentrée faire mes petits développements. D'ailleurs, je me suis aperçue que j'avais vraiment que des merdes. J'avais très mal travaillé. Je ne l'ai pas appelée parce que j'étais très orgueilleuse. Et puis voilà. Et puis, comme je faisais que des chiens écrasés, je me suis retrouvée dans des endroits du genre, qu'est-ce que je vous ai dit, les Alsaciens de Paris, c'est ça, la mairie du 9e. Oh là là, cauchemar. Alors j'essayais de faire des photos. Il était là. Il a été là pendant un mois, partout. Le club des célibataires du 16e arrondissement, quoi d'autre, je ne sais pas, des tas de choses comme ça extraordinaires que je faisais, il était tout le temps là et je ne comprenais pas.
C'est étrange, oui, parce qu'il est connu comme grand reporter, alors là vous êtes en train de me dire qu'il faisait les chiens écrasés.
Il était là tout le temps et je le regardais fasciné, avec un petit Leica à faire clic, toujours bien placé. Alors je le regardais, c'était intéressant, mais je n'avais pas encore pigé que... Et au bout d'un mois, j'étais obligée d'aller à la Société de Presse parce qu'il m'avait invité, parce qu'il y avait les élections américaines, et qu'il m'a dit, si ça vous intéresse, vous pouvez venir avec moi, je vous ferai passer. Et je dis, ah oui, absolument. Et alors je me roulais des épaules à l'agence France Presse, en disant, je vais pouvoir aller là. Ah très bien, à l'ambassade, ah bah très bien, voilà. Et c'est comme ça que je suis allée à la Société de Presse et que j'ai rencontré le boss, Michael Nash, et Guy Kopelovitch, qui a été important pour Michel, comme éditeur, et pour moi, dans toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et Guy Kopelovitch m'a regardé en disant, ah voilà Michel, je dis, ah bon. Et il me dit, ah ben, je vous connais depuis longtemps, ah bon. Ah ben oui, je tire des photos de vous tout le temps. On fait tirer des photos de vous, il n'y a que ça sur les planches. Michel ne travaille plus, il regarde le programme de la journée, le book, et puis il prend toutes les horreurs de la journée. Il sait qu'il vous retrouvera là. Et c'est comme ça que j'ai appris cette histoire, quoi.
Et que vous avez compris qu'en fait...
Enfin
le Il a été amoureux.
Le pauvre Michel, oui. Oui, il a ramé beaucoup.
Ouais. Oui, il est parti aux USA.
Guy Kopelovitch, picture editor à Associated Press.
Avec sa femme, peu après leur mariage, c'était pour faire un périple à travers les États-Unis en bus Greyhound.
On a fait un grand voyage là-bas, comme prétexte d'aller à New York, de voir les boss de la Société de Presse et d'aller pour la Marche de la Paix. Grande Marche de la Paix, 5 millions de personnes à Washington. Et 24 heures plus tard, on s'est retrouvés à Miami. Et là, on découvre l'Amérique parce que de Miami à Washington, c'est deux mondes. On dit qu'il y a 5 millions de personnes à Washington hier. Ah bon ? Ça ne les intéressait pas beaucoup, mais surtout, ils nous rendent... c'est loin, c'est très très loin. Et là, ça fait découvrir ce qu'est l'Amérique. La distance est très importante dans ce pays, pas que parce qu'elle existe, dans la tête aussi. C'est passionnant. On a fait vraiment... Moi, c'était les films, Michel, c'était la littérature. Alors, on choisissait les endroits par rapport à ça.
Il a commencé à faire des piges pour appeler. Il avait pratiquement toujours avec lui un appareil photo. Et donc, quand il se passait quelque chose, qu'il n'y avait pas un photographe disponible... On lui demandait de prendre des photos, mais en 68, comme il y avait besoin de photographes, il est passé photographe à plein temps. Et à partir de ce moment-là, il est parti en reportage très souvent.
J'ai rencontré Michel Laurent quand j'ai commencé à piger pour United Press en 1971-72.
Patrick de Noirmont, photojournaliste à UP puis Reuters.
Lui était staff à Associated Press. On était les deux bambins des agences filaires. C'est vrai que le recrutement n'était pas le même. Tous les photographes d'agences quotidiennes étaient passés par le labo et tout ça et devenaient photographes à 40 ans, 45 ans. Moi, je devais avoir 23 ans et Michel devait avoir 25 ans, je pense, quand on s'est connus. Et donc, on se soutenait. Et puis surtout, il me donnait tous les trucs et les tuyaux à éviter, les erreurs à ne pas faire. C'était une espèce de mentor pendant les deux, trois premières années. Pendant trois ans, on est devenus très amis et puis on a travaillé ensemble en Israël pendant la guerre du Kippour. C'était donc en 73. On est partis ensemble à Chypre aussi au moment de l'invasion de Chypre par les Turcs. On se voyait à Paris et je connaissais bien sa femme et je me souviens même avoir été chercher sa petite fille Justine qui venait de naître à la clinique en voiture parce qu'il était en reportage et qu'il ne pouvait pas au moment de sa naissance. Donc on était vraiment proches. On était vraiment proches.
Il se passait plein de choses dans le monde à ce moment-là. Et comme il était doué, les gens s'en rendaient compte.
Dhaka, capitale du Pakistan oriental. Aujourd'hui, c'est le Bangladesh. À Dhaka, la loi martiale a été décrétée le 26 mars 1971. La presse étrangère a été expulsée. En se cachant des patrouilles militaires, Michel Laurent et le correspondant du Monde réussissent à atteindre la ville. À Dhaka, c'est le massacre. Viols, pillages, exactions en tout genre. On compte les morts par dizaines de milliers. Ce 26 mars, Michel Laurent écrit à sa femme. C'est le couvre-feu. Tout ce qui bouge est descendu sans sommation. Les rues sont désertes. Seuls quelques chiens affamés et les corbeaux, ce sont les seuls amis des militaires. L'homme sera durablement marqué par cet événement. Et l'année suivante, il est déstabilisé par l'attribution du prix Pulitzer. Le prix le plus prestigieux pour un journaliste lui est attribué en duo avec Horsfast, un confrère d'Associated Press. Horsfast, c'est un géant du photojournalisme. Il a 13 ans de plus que Michel Laurent. C'est un vétéran du Vietnam où il a déjà décroché un Pulitzer en 65. Ce prix va un peu porter la poisse à Michel Laurent. À Gama, la disparition de Gilles Caron a laissé un grand vide. De plus, l'agence a fait face à une révolte des photographes intégrés sans être associés. La révolte déclenche un clash entre les fondateurs et le départ de tous les photographes ou presque. Avec son Pulitzer, Michel Laurent apparaît comme l'étoile montante qu'il faut à Gama. Ce prix en poule mérite quelques précisions. Guy Kopelovic, le picture editor d'Associated Press, nous explique.
Il a eu le prix Pulitzer, mais avec Horsfast. Et il était très remonté à l'époque sur cette double attribution du prix, parce que les photos qui avaient été récompensées étaient co-signées du nom de Michel Laurent et Horsfast. En fait, quand elles sont passées sur le fil, elles étaient signées face Laurent. Ce qui s'est passé, c'est que Michel Laurent était avec Horsfast lors du massacre à Dhaka. C'est face qui est parti avec les films pour les transmettre par Bidino. Les photos ont été créditées du nom de face Laurent. À l'époque, la plupart des photos étaient créditées uniquement du nom du photographe. Michel était assez décontenancé parce que donc les photos ont été surtout créditées à Horsfast, qui avait déjà eu un prix Pulitzer, qui était le grand photographe à l'époque, alors que les bonnes photos, les photos les plus percutantes, avaient été prises par Michel Laurent. Je me rappelle d'ailleurs du jour où les photos ont été transmises sur le fil AP. J'ai tout de suite vu que c'était des photos de Michel Laurent et celles de Horsfast étaient moins significatives. Parce que Michel Laurent les avait prises avec un 24 mm. Ça se voit d'ailleurs sur les photos, c'est pris de très près, avec un 24 mm. Or, Sas n'avait pas de 24 mm, il n'aimait pas les 24 mm. Il travaillait avec 35 mm, 50 mm et 105 mm. Dès que j'ai vu les photos, j'ai su que c'était Michel Laurent qui les avait prises. Et on a beaucoup parlé après, et ça l'avait pas mal remué, que ce soit surtout Orsas qui reçoive les félicitations pour le prix Pulitzer. Il estimait que le prix Pulitzer avait récompensé les photos de Michel Laurent, surtout. D'accord. Ce qui est vrai. Orsas, j'étais pas mal en colère après lui pendant quelques temps. Et je l'ai rencontré en 1972, quand on a travaillé ensemble aux Jeux Olympiques de Munich. Je dois dire que j'avais de mauvais sentiments contre Fass. Et en fait, dès que je l'ai rencontré, je savais que c'était quelqu'un de très bien. Et dès que je l'ai rencontré, j'ai pratiquement immédiatement sympathisé avec lui. Fass était quelqu'un de remarquable. C'est pratiquement le seul reproche que j'aurais à lui faire de sa carrière. C'est le crédit du prix Pulitzer qui aurait dû être attribué essentiellement à Michel Laurent.
Dakar, il a été très démoli.
Michel Laurent, épouse du photographe.
Très démoli de voir ces cadavres qui, sur l'eau, comme ça, gonflés. Il n'a vu que ça pendant des... Et alors, c'était très dur. Il était caché, comme il a été caché à Sri Lanka aussi, et Dakar, pour lui, c'était pas du tout scoop, machin, c'était la découverte de l'horreur. La guerre, c'est horrible, mais bon, c'est une chose. Et là, c'est encore autre chose, c'est-à-dire les assassinats de Dakar, pour lui, ne pas les photographier, pour là, quand il est rentré, ne pas les photographier, c'était trahir tous ces gens. C'est vraiment que ça. Si on ne fait pas voir ça, c'est même pas pour... Et c'est, étrangement, c'était la première fois qu'il ne disait pas « je veux informer ». Il informait en faisant ça. C'était trahir les morts, de ne pas faire voir ce qui leur est arrivé. Et ça, c'est tout à fait vrai. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est la première fois qu'il voyait ça. Il avait vu les cadavres sur l'eau à Sri Lanka. Il avait vu ces cadavres que les gens jetaient les gens dans l'eau. Il est tué, même pas assez, d'abord il coulait. Enfin, c'était atroce. Mais il n'avait jamais vu ça. Jamais.
Il faisait des cauchemars après ?
Quelquefois, il se levait la nuit, il ne dormait pas. Et la tendresse revenait, parce qu'il avait cette tendresse immense. Et du coup, il était encore plus gentil avec tout le monde. Tout le temps. Mais c'est fou comme il a toutes ces choses qu'il a vues, elle a toujours retourné comme une pour la vie quotidienne, pour les choses. Quand il était là, il était présent comme personne. Quand moi je vois des gens qui ne partent pas et qui ne reviennent pas, et ils ne sont jamais présents. Enfin, ils sont limites, quoi. Lui, quand il était présent, il était présent.
Michel a travaillé à un moment, ce qui est strictement interdit par les statuts d'AP. Il travaillait en sous-main pour Gamma. Il a pris pas mal de photos, par exemple des entretiens américano-vietnamiens. Il travaillait pour AP officiellement, mais il prenait également des photos pour Gamma pour commencer à avoir des piges chez Gamma. Il y a beaucoup de photos, Kissinger et le Ducto ont été distribué par Gamma, alors qu'il travaillait pour AP. Il donnait aussi beaucoup de photos pour AP aussi. Il travaille donc en même temps pour AP et pour Gamma.
Michel Laurent, il est arrivé après la disparition de Gilles Caron.
Floris de Bonneville, rédacteur en chef de Gamma.
Et après le départ, évidemment, d'Hubert Roth, qui est allé créer Sigma. Ça devait être en 1973... Et Michel Laurent, qui avait eu un prix pour la Société de Presse, qui était donc photographe à la Société de Presse, Michel Laurent a été jugé apte à remplacer Gilles Caron comme associé.
Quand vous dites il a été jugé apte, il a été jugé apte par qui?
Par Raymond, Hugues, Franck Collomb, il y avait moi, donc par les cinq associés, Jean Monteux évidemment, par les cinq associés de l'agence. Et lui, trouvait dans Gamma la possibilité de s'exprimer, de choisir ce qu'il pouvait probablement pas faire à AP, de choisir ses commandes, de choisir ses reportages, et avait trouvé un esprit un peu plus libre et probablement plus rémunérateur qu'à Société de Presse.
En Israël, on parlait de nos secrets.
Patrick de Noirmont.
Lui venait de passer à l'agence Gamma. Il avait quitté AP quelques mois auparavant, après qu'il ait eu son prix Pulitzer avec Associated Press. Et donc, on avait le temps de parler. Il m'avait demandé « Quel est ton secret ?» Et je ne comprenais pas sa question. Et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Il me dit « Tout le monde a un secret. Quel est ton secret ?» J'ai dit « Je te dis mon secret, mais tu n'en parles à personne. Je suis daltonien. » Et il a éclaté de rire en me disant « C'est étonnant parce que moi aussi. » Et donc, on était deux photographes d'agence daltoniens. Ça ne m'a pas gêné. Les agences, à ce moment-là, j'étais à Reuters. Donc, ça a dû commencer en 90-91, la couleur, le tout couleur. Donc, j'ai eu quelques mois de battement parce que c'était pas terrible. Jusqu'au moment où ils ont sorti les balances automatiques sur Photoshop. Et là, ça m'a bien arrangé. On avait le même secret, et puis je crois aussi qu'il était, il avait un œil extrêmement, où il voyait extrêmement bien, je pense que c'était de l'œil droit, mais l'œil gauche, non. Et alors il me disait qu'il voyait dans son appareil photo le tirage, parce qu'il n'y avait pas de relief. Donc voilà, c'était nos secrets, on était des malvoyants. On n'a jamais été, on n'a pas trop travaillé quand l'un contre l'autre, si l'on peut dire, quand moi j'étais à UPI et lui à AP. On a travaillé ensemble quand il est passé à Gamma, où là, le problème ne se posait même pas. J'y donnais des négatifs. Je me souviens au moment des accords de paix qui étaient signés entre l'Égypte et Israël. J'avais eu la chance d'être quasiment seul. Et donc, mes négatifs, je lui ai donné. Tout ce que je n'avais pas donné à UPI. Donc oui, non, pas aucune concurrence. Il était passé à Gamma parce que après les années qu'il a pu passer au Vietnam et après son prix Pulitzer, il sentait qu'il pouvait faire autre chose, qu'il pouvait faire des photos différentes. Et il était très ami avec des gens de Gamma, avec les fondateurs. Il était très ami avec Raymond Depardon. Et c'est comme ça qu'un jour, il a pris la décision de quitter AP et de rentrer à Gamma.
Parce qu'on s'était retrouvé au Vietnam, il était pour AP.
Raymond Depardon, photographe et cofondateur de Gamma.
Comme j'avais pas un rond, moi, j'habitais dans sa chambre au Continental. Et bon, je connaissais un peu Michel, sa femme, enfin tout ça. On se racontait pas mal d'histoires comme ça. Il était malheureux parce qu'il y avait un gars qui était terrifiant, mais qui était un grand photographe, un grand journaliste. Mais c'était une terreur, c'était hors face. Il avait fait ses photos au Bangladesh, là, tout ça. Et puis, en fait, il voulait aller à Cuba, il voulait faire autre chose que de... Il voulait quitter AP. Il avait besoin encore de se confronter au réel. Il était jeune photographe encore. Je suis parti avec lui une fois et en fait, j'ai dit qu'il faut qu'il vienne à Gamma. En plus, à cette époque-là, Gilles avait disparu. Et bien sûr, on était tous fascinés par Gilles. Mais j'ai commencé à lui dire, attention, Gilles, faut pas tomber, faut essayer de faire, faut alterner, quoi. Faut essayer d'alterner, parce que sinon, après, c'est toi ou c'est moi. Si on a la réputation comme ça, faut savoir dire non.
Les gens l'ont attiré, ça faisait bien d'avoir un nom de quelqu'un qui avait eu les prix Pulitzer. C'était chic.
Michel Laurent.
Mais voilà. Mais c'est pas ce qu'il voulait. C'est pas ce qu'il voulait. D'ailleurs, il voulait plus partir. Donc voilà, c'est pas ce qu'il voulait. Il était en désaccord avec lui-même complètement. Et il disait, mais on va arrêter, je vais arrêter très vite. Non, l'idéal de Michel, depuis déjà 2 ans avant sa mort, il disait, alors je vais prendre une année sabbatique où je vais apprendre à faire des photos autrement que ce que j'ai appris, parce que je ne serai pas assez doué, je ne suis pas encore un grand photographe, je veux arriver à travailler à National Geographic. J'ai eu des contacts avec eux aux États-Unis. Et c'est le but qu'on avait, c'est ça. Le contraire. Et donc, c'était fini. S'il n'avait pas été un peu pas manipulée du tout, mais entraînée dans cette agence Gamma, qui pour moi est l'erreur absolue.
Oui, effectivement, j'ai cherché à faire autre chose.
Guy Kopelovitch.
Le prix Pulitzer, vous l'avez transformé en photographe de guerre, ce qu'il était un petit peu, mais il tenait pas du tout à faire carrière dans ce domaine-là. Une de ses ambitions, mais effectivement, le National Geographic le tentait beaucoup, oui.
Et à un moment, Gamma lui a demandé de retourner au Vietnam.
Patrick de Noirmont.
Parce que leur photographe à l'époque s'était fait blesser en 1975.
Tout ce que je sais, c'est que quand il est parti au Vietnam...
Floris de Bonneville.
Je crois qu'il y avait aussi Franck Collomb, d'ailleurs. Il avait été surtout blessé dans l'âme parce qu'il avait réussi à faire des photos tout à fait extraordinaires. Là, je parle de Franck Collomb. Tout à fait extraordinaires du départ de ces enfants orphelins dans les Boeing 747 de l'armée américaine ou de la Paname. D'ailleurs, il avait fait les photos de ses bébés qui étaient chacun sur un siège... De 747 qui partait pour les États-Unis. Donc c'était vraiment quelques jours avant la chute de Saigon.
Ben oui, c'est lui qui m'a remplacé au Vietnam.
Jean-Claude Franck Collomb, photojournaliste à Gamma.
À l'époque, j'avais été abattu en hélicoptère le 15 avril. J'étais sonné, on m'a transporté à l'infirmerie. J'avais des blessures des éclats de balles. Il n'y avait rien, de dramatique. Il y avait des blessures légères. Mais je rentre à Saigon. Je reste 2-3 jours, je m'en remets. Je vais faire un tour sur la route numéro 1. Parce que là, les Nord-Vietnamiens ont commencé à arriver en grande force. Donc on me disait que les premières lignes n'allaient pas forcément tenir. Donc je me rends là, et là je tombe dans une embuscade au but de mortier. Je suis à plat ventre, ça éclate, c'est comme au cinéma, hein, la terre volait à gauche à droite. Quand ça s'est arrêté, il y a un Américain, j'étais avec un confrère américain, qui se met à hurler « go back, no !» Et je vais pouvoir reprendre mon sac, et dans mon sac j'avais plus rien. Le sac était volatilisé, j'avais un boîtier, j'étais en l'éca à l'époque, j'avais un boîtier avec un 180 qui était en morceaux, donc je ramasse les débris et puis je vais me réfugier derrière une colline. Et là, je rentre le soir, et là j'avais été blessé aux jambes, et là j'ai dit pouce, c'est bon, j'ai perdu mon matériel, je suis blessé aux jambes, c'est pas gravement. C'est Kouchner qui m'avait soigné, c'est le hasard, c'est comme ça que j'ai rencontré la première fois Kouchner, qui m'avait soigné. Et là, je rentre à l'hôtel, j'envoie, à l'époque c'était les Telex, un Telex à Floris, à Paris, en disant « pouce, c'est bon, j'ai perdu mon matériel, j'en ai réchappé en hélicoptère, et là maintenant, on vient de me faire prendre aux jambes, ça va, je peux marcher, mais c'est bon, ça va, je suis nerveux. » Je n'ai pas un coup de fusil, je suis tendu, je n'arrive pas à me raisonner. C'est tout, moi je ne veux plus, je veux rentrer. Et donc on a commencé une discussion en disant, mais qui c'est-tu qui te remplace? Il y a un gars que j'aimais bien, un photographe que j'aimais bien, qui s'appelait Michel Artaud, et qui j'avais commencé à sa piste, si tu veux. Et lui avait fait un peu l'Irak, il avait été faire l'Irak à l'époque. Il avait fait le début de la guerre, le MPLA, le début de la guerre en Angola. Donc on a échangé des courriers comme ça pendant un jour ou deux, et on n'aurait pas réussi à se mettre d'accord. Et puis finalement, je lui dis, bon, ben écoute, il y a un gars qui est connu ici, qui est venu au Vietnam, qui connaît tous les confrères américains que je vois ici autour de moi, parce qu'il y en a de temps en temps qui me demandent de ses nouvelles. Je dis, ben tu fais venir Michel. Et donc j'ai vu arriver Michel Laurent. Il est arrivé dans de mauvaises conditions, en ce sens que il y avait un incendie gigantesque qui s'était éclairé dans un bidonville près de Saigon. Un incendie qui n'avait rien à voir avec la guerre. Et donc, quand tu vois ça d'avion en venant de Paris et que tout brûle sur vraiment des kilomètres carrés, si tu veux, toi, t'es pas rassuré. Donc il est venu dans la chambre. Il me dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ici, tout est en flammes, c'est la guerre, mais comment tu t'en sors? Je lui dis, mais attends, ici, pour le moment, ici, tout va bien, il n'y a pas de... ce que tu as vu, c'est un bidonville qui brûle, c'est pas de, ça n'a rien à voir avec un acte de guerre, mais je vais t'expliquer, je vais te donner deux, trois éléments, je vais te dire ce que je fais. T'as beaucoup de potes ici, t'auras des infos sans problème, ça va bien se passer, mais moi je crie pouce, voilà, c'est bon, j'entre. Donc, on est resté quelques jours ensemble, il m'a montré les photos de sa fille qui venait de baptiser le week-end d'avant. Et puis, je l'ai trouvé quand même un peu, évidemment, inquiet. On a pris un petit déjeuner ensemble le dernier jour, et il m'a accompagné à l'aéroport. Et là, vraiment, j'ai eu un pressentiment, j'étais persuadé, mais là, je te le dis sincèrement, j'étais persuadé au fond de moi-même que je le reverrais pas.
Et c'est là qu'il est mort. Il est mort le dernier jour de la guerre au Vietnam, où il est parti avec des journalistes français, pour essayer de rencontrer le Viet Cong qui, à ce moment-là, marchait sur Saïgon.
Patrick de Noirmont.
Il était avec Christian Hoche, une équipe de télévision, c'était Jean-Pierre Moscardo. Il a été tué par les gens du Viet Cong quasiment le dernier jour de la guerre du Vietnam.
Un de mes grands regrets dans la vie, c'est que pour la chute de Saïgon, il se trouve que j'étais à ce moment-là en vacances avec ma femme en Irlande.
Guy Kopelovitch.
À l'époque, il n'y avait pas les communications qu'il y a maintenant. Je sais que le patron de la photo à Paris, Mike Nash, un grand monsieur d'ailleurs, cherchait à me joindre pour m'envoyer à Saïgon. Il n'y avait pas de moyen de me joindre. Et c'est seulement au retour à Paris que Nash m'a dit qu'il regrettait de ne pas m'avoir rejoint en Irlande. S'il avait pu me joindre, je serais parti à Saïgon et j'aurais bien aimé pouvoir aider les recherches pour Michel. J'aurais pu être utile, notamment pour faire récupérer le corps de Michel qui restait des mois à Saïgon.
Hélas, j'ai récupéré son corps à Roissy.
Floris de Bonneville.
Et surtout ses caméras qui avaient reçu une balle de son Leica. Michel, sa femme, a dû conserver avec encore les traces de sang sur ce malheureux Leica que je reverrai toujours arriver à l'agence par je ne sais plus quel moyen, mais ce sont des mémoires, des souvenirs que l'on aimerait ne pas avoir vécu.
Une rafale a fait voler notre pare-brise en éclats. Nous n'avions qu'une issue, rouler tous les deux dans le fossé. On était comme deux lapins terrés dans leur terrier et qui attendent une accalmie pour sortir. J'étais devant, Michel était derrière. J'ai entendu un grand cri. Michel est tombé la face contre terre. J'ai pris une balle dans le menton et une balle dans la cuisse gauche, a raconté Christian Hoche, l'envoyé spécial du Figaro qui l'accompagnait. Michel était touché à mort. Il a gémi pendant une dizaine de minutes. Il a râlé. Je pense qu'il avait deux balles ou trois dans la poitrine. Et au bout d'une dizaine de minutes, il s'est éteint. Deux jours après l'embuscade, Le Monde annonce la disparition des deux journalistes sans donner leur nom. Le 2 mai suivant, le ministère des Affaires étrangères fait une nouvelle démarche auprès du gouvernement de la République populaire du Vietnam pour obtenir des informations sur le sort des deux journalistes français. Christian Hoche, soigné dans un hôpital de campagne par les forces révolutionnaires, regagne son hôtel. Mais le 15 septembre, 5 mois plus tard, nouvelle protestation de Paris auprès des autorités de Saïgon. Le corps de Michel Laurent n'a toujours pas été ramené en France. Je sais, les détails sont macabres. Mais il faut que le public sache, la vie des proches des reporters tués au front est un enfer. C'est le plus souvent la double peine, la perte et l'abandon. Pour vous, Michel, comment ça s'est passé avec l'agence Gamma ?
Minable, à part une ou deux personnes, humainement bien. Minable, l'agence Minable, Minable. Tout a été Minable. La personne qui était là pour lui, qui a été là pour beaucoup de choses, c'est Guy Kopelovitch, comme d'habitude. C'était le poids, ça a toujours été là. Les plus belles lettres, c'est eux qui me les ont envoyées. Pourtant, il avait fait un coup assez dur de partir. Donc, ils ont toujours été là. Toujours, toujours, ils ont été là. Toujours, même quand les boss changeaient, quand les gens changeaient, il y avait toujours un relais si je demandais quelque chose. C'est pour, par rapport à Michel, quoi. Je veux dire, c'est fou, quoi. Pas à la hauteur du tout. Mais on le sentait, il le sentait dès le départ. Il s'est fait avoir. Il s'est complètement fait avoir, là. Moi, ce que je trouverais intéressant, c'est les choses qu'on ferait maintenant, que j'aurais dû faire il y a 20 ans, que je n'ai pas fait. Donc, les regrets, c'est moi qui les ai. Je n'ai pas été à la hauteur. De tout de suite, au moment où j'ai compris que le monde avait changé pour les journalistes, que mon idée, que ça avait changé, peut-être que les gens ne pensent pas comme moi, qu'il n'y avait pas besoin de risquer sa vie pour ce métier, soyons clairs, et d'aller au front pour chercher la formation et la diffuser, et qu'elle existe. Étrangement, je pense que ça peut être fait autrement maintenant. Donc j'aurais dû, à partir de ce moment-là, remettre Michel en avant, pour dire voilà l'idée d'avant, et pas que Michel, plein d'autres photographes de cette époque ou d'avant, et comparer ça avec... Ça, c'est un regret que j'ai, parce que c'est pas maintenant, je peux le faire, mais c'est un peu tard. C'est encore une autre époque. Il y a eu plusieurs époques, il y a eu trois époques depuis Michel, je dirais. L'époque Michel, l'époque d'avant, qui était longtemps avant, et jusqu'à Michel, et jusqu'à un peu après. Et ensuite, une autre époque intermédiaire, où vraiment il fallait encore aller chercher l'info, et aller sur le front, je pense, ça a duré tout de même encore un moment, une dizaine d'années. Et ensuite, j'ai vu une coupure directe. Quand il y a eu Internet partout, partout, là, j'ai vu que c'était fini. Troisième époque. C'est-à-dire où c'est autre chose. Le téléphone portable pour filmer, prendre le son et tout ça, et Internet. Là, j'ai trouvé que c'était de nouveau un autre métier.
Merci, Michel. Ce podcast a été réalisé par Jean-Louis Vinet avec les sons de Michel Puech, dont l'interview exclusive de Michel Laurent, épouse du photographe, enregistrée en avril 2015, de Guy Kopelovitch, picture editor d'Associated Press, enregistré en mai 2015, de Patrick de Noirmont, photojournaliste à UPI, puis Reuters, enregistré en juin 2015, de Floris de Bonneville, rédacteur en chef de Gamma, enregistré en 2013, de Raymond Depardon, photographe et fondateur de l'agence Gamma en avril 2020, de Jean-Claude Francolon, photojournaliste à Gamma, enregistré en avril 2020. C'est une production du blog À l'œil, journalisme et photographie. Vous pouvez nous retrouver sur www.a-l-oeil.info au singulier. Au revoir.